Chapitre 7e. Une débouche de l'enfer. Si la situation de la terrasse, tout en haut d'un grand jardin, dans une partie où personne ne se promenait, et sous l'abri d'épaisses frondaisons, avait offert quelques semaines d'absolue sécurité à Aurélie et à Raoul, n'était-il pas à penser que Mariscal allait trouver là les quelques minutes qui lui étaient nécessaires, et qu'Aurélie ne pouvait espérer aucune assistance? Fatalement, la scène se poursuivrait jusqu'au terme voulu par l'adversaire, et le dénouement serait conforme à sa volonté implacable. Il le sentait si bien qu'il ne se pressa pas. Il avança lentement et s'arrêta. La certitude de la victoire troublait l'harmonie de son visage régulier et déformait ses traits d'habitude immobiles. Un rictus remontait le coin gauche de sa bouche, entraînant ainsi la moitié de sa barbe carrée. Les dents luisaient, les yeux étaient cruels et durs. Il ricana. « Eh bien, mademoiselle, je crois que les événements ne me sont pas trop défavorables. Pas moyen de m'échapper comme dans la gare de Beaucourt. Pas moyen de me chasser comme à Paris. Hein? Il va falloir subir la loi du plus fort. » Le buste droit, les bras raidis, ses poings crispés sur le banc de pierre, Aurélie le contemplait avec une expression d'angoisse folle, pas un gémissement. Elle attendait. Comme c'est bon de vous voir ainsi, jolie demoiselle. Quand on aime de la façon un peu excessive dont je vous aime, ce n'est pas désagréable de trouver en face de soi de la peur et de la révolte. On est d'autant plus ardent à conquérir sa proie. Sa proie magnifique, ajouta-t-il tout bas, car en vérité vous êtes rudement belle. Apercevant le télégramme déplié, il se moqua. C'est excellent Bréjac, n'est-ce pas? Qui vous annonce son arrivée imminente et votre départ. Je sais, je sais. Depuis 15 jours, je le surveille, mon cher directeur, et je me tiens au courant de ses projets les plus secrets. J'ai des hommes dévoués près de lui. Et c'est ainsi que j'ai découvert votre retraite, et que j'ai pu le devancer de quelques heures, lui. Le temps d'explorer les lieux, la forêt, le vallon, de vous épier de loin, et de vous voir trotter en hâte vers cette terrasse. Et j'ai pu grimper ici et surprendre une silhouette qui s'éloignait. Un amoureux, n'est-ce pas? Il fit quelques pas en avant. Elle eut un haut-le-cœur et son buste toucha le treillage qui entourait le banc. Il s'irrita. Eh, la belle! J'imagine qu'on ne reculait pas ainsi tout à l'heure quand l'amoureux s'occupait à vous caresser. Hein? Quel est cet heureux personnage? Un fiancé? Un amant, plutôt. Allons. Je vois que j'arrive tout juste pour défendre mon bien. Empêcher la candide pensionnaire de Sainte-Marie de faire des bêtises. Ah, si jamais j'aurais supposé cela. Il contint sa colère et penchait sur elle. Après tout, tant mieux. Les choses se trouvent simplifiées. La partie que je jouais était déjà admirable, puisque j'ai tous les atouts en main. Mais quelle surcroît de chance. Aurélie n'est pas une vertu farouche. On peut voler et tuer tout en se dérobant devant le fossé. Et puis voilà qu'Aurélie est toute prête à sauter l'obstacle. Alors pourquoi pas en ma compagnie, hein, Aurélie? Autant moi que cet autre. S'il a ses avantages, j'ai des raisons en ma faveur qui ne sont pas à dédaigner. Qu'en dites-vous, Aurélie? Elle se taisait obstinément. Le courroux de l'ennemi s'exaspérait de ce silence terrifié, et il reprit en scandant chaque parole. Nous n'avons pas le loisir de marivauder, n'est-ce pas, Aurélie? Ni d'effleurer les sujets les uns après les autres. Il faut parler net, sans avoir peur des mots, et pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Donc, droit au but, silence sur le passé et sur les humiliations que j'ai subies. Cela ne compte plus. Ce qui compte, c'est le présent. Un point, c'est tout. Or, le présent, c'est l'assassinat du rapide. C'est la fuite dans les bois. C'est la capture par les gendarmes. C'est 20 preuves dont chacune est mortelle pour vous. Et le présent, c'est aujourd'hui, où je vous tiens sous ma griffe. Et je n'ai qu'à vouloir pour vous empoigner, pour vous conduire jusqu'à votre beau-père et pour lui crier en pleine face devant témoin. La femme qui a tué, celle qu'on recherche partout, la voici. Et le mandat d'arrêt, je l'ai dans ma poche. Qu'on avertisse les gendarmes. Il leva le bras, prêt, comme il disait, à empoigner la criminelle, et plus sourdement encore, la mena suspendue et l'acheva. Donc, d'une part, cela, c'est-à-dire la dénonciation publique, les assises et le châtiment redoutable, et d'autre part, ceci, qui est le second terme de ce que je vous donne à choisir, l'accord immédiat, aux conditions que vous devinez. C'est plus qu'une promesse que j'exige, c'est un serment, fait à genoux, le serment qu'une fois de retour à Paris, vous viendrez me voir seul chez moi. Et c'est plus encore, c'est tout de suite la preuve que l'accord est loyal, signé par votre bouche sur la mienne. Et non pas un baiser de haine et de dégoût, mais un baiser volontaire. Comme d'aussi belle et de plus difficile que vous m'en avez donné, Aurélie. Un baiser d'amoureuse. Mais réponds donc, sacrebleu, s'écria-t-il dans une explosion de rage. Réponds-moi que tu acceptes. J'en ai assez de tes airs de damné. Réponds ou bien je t'empoigne, et ce sera le baiser quand même, et quand même la prison. Cette fois, la main s'abattit sur l'épaule avec une violence irrésistible, tandis que l'autre main, saisissant Aurélie à la gorge, lui fixait la tête contre le treillage et que les lèvres descendirent. Mais le geste ne fut pas achevé. Marescal sentit que la jeune fille s'affaissait sur elle-même. Elle s'évanouit. L'incident troubla profondément Marescal. Il était venu sans plan précis, en tout cas sans autre plan que celui de parler, et en une heure, avant l'arrivée de Bréjac, d'obtenir des promesses solennelles et la reconnaissance de son pouvoir. Or voilà que le hasard lui offrait une victime inerte et impuissante. Il demeura quelques secondes courbé sur elle, la regardant de ses yeux avides, et regardant autour de lui cette salle de feuillage, close et discrète. Nul témoin, aucune intervention possible. Mais une autre pensée le conduisit jusqu'au parapet, et par la brèche pratiquée au milieu des arbustes, il contempla le vallon désert, la forêt aux arbres noirs, toute ténébreuse et mystérieuse, où il avait remarqué en passant l'orifice des grottes. Aurélie jetait là, emprisonnée et maintenue sous la menace épouvantable des gendarmes. Aurélie captive, 2 jours, 3 jours, 8 jours s'il le fallait. N'était-ce pas le dévouement inespéré, triomphal, le commencement et la fin de l'aventure? Il donna un léger coup de sifflet. En face de lui, sur l'autre rive de l'étang, 2 bras s'agitèrent au-dessus de 2 buissons situés à la lisière de la forêt. Signaux convenus, 2 hommes étaient là, postés par lui pour servir à ses machinations. De ce côté de l'étang, la barque se balançait. Marescal n'hésita plus. Il savait que l'occasion est fugitive, et que s'il ne la saisit pas au passage, elle se dissipe comme une ombre. Il traversa de nouveau la terrasse, et constata que la jeune fille semblait prête à s'éveiller. « Agissons, dit-il, sinon... » Il lui jeta sur la tête un foulard, dont 2 des extrémités furent nouées sur la bouche et à la manière d'un bâillon. Puis il la prit dans ses bras et l'emporta. Elle était mince et ne pesait guère. Lui était solide. Le fardeau lui parut léger. Néanmoins, quand il parvint à la brèche et qu'il observa la pente presque verticale du ravin creusé par les orages au milieu du soubassement, il réfléchit et jugea nécessaire de prendre des précautions. Il déposa donc Aurélie au bord de la brèche. Attendait-elle la faute commise? Fût-ce de sa part une inspiration subite? En tout cas, l'imprudence de Marescal fut aussitôt punie. D'un mouvement imprévu, avec une rapidité et une décision qui le déconcertèrent, elle arracha le foulard, et sans souci de ce qui pouvait advenir, se laissa glisser de haut en bas comme une pierre détachée qui roule dans un éboulement de cailloux de sable d'où monte un nuage de poussière. Remis de sa surprise, il s'élança au risque de tomber et l'aperçut qui courait à l'aventure en zigzag de la falaise à la berge comme une bête traquée qui ne sait pas où s'enfuir. « Tu es perdue, ma pauvre petite, » proféra-t-il. « Rien à faire qu'à plier les genoux. » Il la rejoignait déjà, et Aurélie vacillait de peur et trébuchait. Quand il eut l'impression que quelque chose tombait du haut de la terrasse et s'abattait près de lui, ainsi que lui fait une branche d'arbre cassée. Il se retourna. vit un homme dont le bas du visage était masqué d'un mouchoir et qui devait être celui qu'il appelait l'amoureux d'Aurélie, eut le temps de saisir son revolver, mais n'eut pas le temps de s'en servir. Un coup de pied de l'agresseur, lancé en pleine poitrine, ainsi qu'un coup de savate vigoureusement appliqué, le précipita jusqu'à mi-jambe dans un amalgame de vases liquides que formait l'étang à cette place. Furieux, pataugeant, il braqua son revolver sur cet adversaire au moment où celui-ci, 25 pas plus loin, étendait la jeune fille dans la barque.
« Halte ou je tire ! » cria-t-il.
Raoul ne répondit pas. Il dressa et appuya sur un banc comme un bouclier qui les protégeait, Aurélie et lui, une planche à moitié pourrie. Puis il poussa au large la barque qui se mit à danser sur les vagues. Marescal tira. Il tira 5 fois. Il tira désespérément et rageusement. Mais aucune des 5 balles, mouillées sans doute, ne consentit à partir. Alors il siffla, comme auparavant, mais d'une manière plus stridente. Là-bas, les 2 hommes surgirent de leur fourré comme des diables hors de leur boîte. Raoul se trouvait au milieu de l'étang, c'est-à-dire à 30 mètres peut-être de la rive opposée.
« Ne tirez pas !» hurla Marescal.
À quoi bon, en effet? Le fugitif ne pouvait avoir d'autre but. Pour ne pas être entraîné par le courant vers le gouffre où disparaissait le gave, que de filer en ligne droite et d'accoster précisément à l'endroit où l'attendaient les 2 acolytes revolver au poing. Il dut même s'en rendre compte, le fugitif, car subitement il fit volte-face, et revint vers la rive où il n'aurait à combattre qu'un adversaire seul et désarmé.
« Tirez, tirez !»
vociféra Marescal, qui devina le manège.
« Il faut tirer maintenant puisqu'il revient, mais tirez donc, sacrebleu !»
Un des hommes fit feu. Dans la barque, il y eut un cri. Raoul lâcha ses avirons et se renversa, tandis que la jeune fille se jetait sur lui avec des gestes de désespoir. Les avirons s'en allaient à volo. La barque demeura un instant immobile, indécise, puis elle vira un peu. La proue, pointant vers le courant, recula, glissa en arrière, lentement d'abord, plus vite ensuite.
« Crebleu de crebleu !»
balbutia Marescal. Il s'en fichut.
Mais que pouvait-il faire?
Le dénouement ne laissait aucun doute. La barque fut happée par 2 torrents de petites vagues hâtives qui se bousculaient de chaque côté de la nappe centrale. Une fois encore, tourna sur elle-même, brusquement pointa en avant. Les 2 corps couchés au fond et fila comme une flèche vers l'orifice béant où elle s'engloutit. Cela ne se passa pas certainement plus de 2 minutes après que les 2 fugitifs eurent quitté la rive. Marescal ne bougea point, les pieds dans l'eau, la figure contractée d'horreur. Il regardait l'emplacement maudit, comme s'il eût contemplé une bouche de l'enfer. Son chapeau flottait sur l'étang. Sa barbe et ses cheveux étaient en désordre. «
Est-ce possible ? Est-ce possible ? » bégayait-il. « Aurélie ! Aurélie !»
Un appel de ses hommes le réveilla de sa torpeur. Ils firent un grand détour pour le rejoindre et le trouvèrent en train de se sécher. Il leur dit « Est-ce vrai ?»«
Quoi ? La barque ? Le gouffre ?»
Il ne savait plus. Dans les cauchemars, d'abominables visions passent ainsi, laissant l'impression de réalités affreuses. Tous 3, ils gagnèrent le dessus du trou que marquait une dalle et qu'entouraient des roseaux et des plantes accrochées aux pierres. L'eau arrivait en menues cascades où s'arrondissait, çà et là, le dos luisant de grosses roches. Ils se penchèrent, ils écoutèrent, rien. Rien qu'un tumulte de flots pressés. Rien qu'un souffle froid qui montait avec la poudre blanche de l'écume.
« C'est l'enfer, » balbutia Marescal. « C'est une des bouches de l'enfer. » Et il répétait. « Elle est morte. Elle est noyée. Est-ce bête ? Quelle mort effroyable ! Si cet imbécile l'avait laissée, j'aurais... »
Ils s'en allèrent par le bois. Marescal cheminait, comme s'il eût suivi un convoi. À diverses reprises, ses compagnons l'interrogèrent. C'étaient des individus peu recommandables, qu'il avait racolés pour son expédition en dehors de son service, et auxquels il n'avait donné que des renseignements sommaires. Il ne leur répondit pas. Il songeait à Aurélie, si gracieuse, si vivante, et qu'il aimait si passionnément.
Des souvenirs le troublaient, compliqués de remords et de frayeurs. En outre, il n'avait pas la conscience bien tranquille. L'enquête imminente pouvait l'atteindre, lui, et, par suite, lui attribuer une part dans le tragique accident. En ce cas, c'était l'effondrement, le scandale. Bréjac serait impitoyable et poursuivrait sa vengeance jusqu'au bout. Bientôt, il ne songea plus qu'à s'en aller et quitter le pays le plus discrètement possible. Il fit peur à ses acolytes. Un danger commun les menaçait, disait-il, et leur sécurité exigeait qu'on se dispersât et que chacun veillât à son propre salut avant que l'alarme fût donnée et leur présence signalée. Il leur remit le double de la somme convenue, évita les maisons de Luz et prit la route de Pierrefitte-Nestalas avec l'espoir de trouver une voiture qui l'emmènerait en gare pour le train de 7 heures du soir. Ce n'est qu'à 3 kilomètres de Luz qu'il fut dépassé par une petite charrette à 2 roues couverte d'une bâche et que conduisait un paysan vêtu d'une ample limousine et coiffé d'un béret basque. Il monta d'autorité et d'un ton impérieux. 5 francs, si l'on arrive au train. Le paysan ne parut pas s'émouvoir et ne cingla même point la chétive ridelle qui brinque-ballait entre des brancards trop larges. Le trajet fut long. On n'avançait pas. On eût dit au contraire que le paysan retenait sa bête. Marescal l'enrageait. Il avait perdu tout contrôle sur lui-même et se lamentait. « Nous n'arriverons pas. Quelle carne que votre cheval. 10 francs pour vous, hein, ça colle ?» La contrée lui paraissait odieuse, peuplée de fantômes et sillonnée de policiers aux trousses du policier Marescal. L'idée de passer la nuit dans ces régions où gisait le cadavre de celle qui l'avait envoyé la mort était au-dessus de ses forces. « 20 francs, dit-il. Et tout à coup, perdant la tête, « 50 francs, voilà 50 francs. Il n'y a plus que 2 kilomètres. 2 kilomètres en 7 minutes. Sacré nom, c'est possible. Allons, crebleu, fouettez-la, votre bique. 50 francs. » Le paysan fut pris d'une crise d'énergie furieuse et se mit, comme s'il n'avait attendu que cette proposition magnifique, à frapper avec tant d'ardeur que la bique partit au galop. « Hé, attention, vous n'allez pas nous jeter dans le fossé !» Le paysan s'en moquait bien de cette perspective. 50 francs. Il tapait à tour de bras, du bout d'un gourdin que terminait une masse de cuivre. La bête affolée redoublait de vitesse. La charrette sautait d'un bord à l'autre de la route. Marescal s'inquiétait de plus en plus. « Mais c'est idiot, nous allons verser. Halte, sacrebleu !»« Voyons, voyons, vous êtes toqués. Tenez, ça y est, nous y sommes. » Ça y était, en effet. Un coup de rein maladroit, un écart plus vif, et tout l'équipage piqua dans un fossé d'une façon si désastreuse que la charrette fut retournée par-dessus les 2 hommes à plat ventre et que la bique, empêtrée dans les harnais, sabots en l'air, lançait des ruades sous le plancher du siège. Marescal se rendit compte tout de suite qu'il sortait indemne de l'aventure, mais le paysan l'écrasait de tout son poids. Il voulut s'en débarrasser. Il ne le put, et il entendit une voix aimable qui susurrait à son oreille. « As-tu du feu, Rodolphe ?» Des pieds à la tête, Marescal sentit que son corps se glaçait. La mort doit donner cette impression atroce de membres déjà refroidis, que rien ne sera plus jamais capable de ranimer. Il balbutia. « L'homme du rapide. »« L'homme du rapide, c'est ça même, » répétait la bouche qui lui chatouillait l'oreille. « L'homme de la terrasse, » gémit Marescal. « Tout à fait juste. L'homme du rapide, l'homme de la terrasse. Et aussi l'homme de Monte Carlo, et l'homme du boulevard Haussmann, et l'assassin des 2 frères Loubeau, et le complice d'Aurélie, et le notonnier de la barque, et le paysan de la charrette. Hein, mon vieux Marescal, ça t'en fait des guerriers à combattre, et tous de taille, j'ose le dire. » La bique avait fini ses pétarades et s'était relevée. Petit à petit, Raoul ôtait sa limousine dont il réussit à envelopper le commissaire, immobilisant ainsi les bras et les jambes. Il repoussa la charrette, attira les sangles et les rênes du harnachement et ligota solidement Marescal, qu'il remonta ensuite hors du fossé et jucha sur un haut talus parmi des pétaillis. 2 courroies restaient, à l'aide desquelles il fixa le buste et le cou au tronc d'un bouleau. « T'as pas de chance avec moi, mon vieux Rodolphe. Ça fait 2 fois que je t'entortille tel un pharaon. Ah, que je n'oublie pas, comme Bayon, le foulard d'Aurélie. Ne pas crier et n'être pas vu, telle est la règle du parfait captif. Mais tu peux regarder de tous tes yeux, et de même écouter de toutes tes oreilles. Tiens, entends-tu le train qui siffle? Teuf, teuf, teuf. Il s'éloigne. Avec lui, la douce Aurélie et son beau-père. Car il faut que je te rassure, elle est aussi vivante que toi et moi, Aurélie. Un peu lasse, peut-être, après tant d'émotions. Mais une bonne nuit, et il n'y paraîtra plus. Raoul attacha la bique et rangea les débris du véhicule, puis il revint s'asseoir près du commissaire. Drôle d'aventure que ce naufrage, n'est-ce pas? Mais aucun miracle, comme tu pourrais le croire, et aucun hasard non plus. Pour ta gouverne, tu sauras que je ne compte jamais ni sur un miracle, ni sur le hasard, mais uniquement sur moi. Donc? Mais ça ne t'embête pas, mon petit discours. Tu n'aimes pas mieux dormir, non? Alors je reprends. Donc, je venais de quitter Aurélie sur la terrasse, lorsque j'eus en route une inquiétude. Était-ce bien prudent de la laisser ainsi? Sait-on jamais si quelque malfaiteur ne rôde pas, si quelque bellâtre pommadé ne fouine pas aux environs? Ces intuitions-là, ça fait partie de mon système. J'y obéis toujours. Donc, j'y retourne. Et qu'est-ce que j'avise? Rodolphe, ravisseur infâme et déloyal policier qui plonge dans le vallon à la suite de sa proie. Sur quoi, je tombe du ciel, je t'offre un bain de pied à la vase, j'entraîne Aurélie et bogue la galère. L'étang, la forêt, les grottes, c'était la liberté. Patatras, voilà que tu siffles. Et deux escogriffes se dressent à l'appel. Que faire? Problème insoluble, s'il en fut. Non, une idée géniale. Si je me faisais avaler par le gouffre. Justement, un Browning me crache sa mitraille. Je lâche mes avirons, je fais le mort au fond du canot. J'explique la chose à Aurélie. Et blanc, nous piquons une tête dans la bouche d'égout. Raoul tapota la cuisse de Marescal. Non, je t'en prie, bon ami, ne t'émeux pas. Nous ne courions aucun risque. Tous les gens du pays savent qu'en empruntant ce tunnel taillé en plein terrain calcaire, on est déposé 200 mètres plus bas, sur une petite plage de sable fin, d'où l'on remonte par quelques marches confortables. Le dimanche, des douzaines de gosses font ainsi de la nage en traînant leur esquif au retour. Pas une égratignure à craindre. Et de la sorte, nous avons pu assister de loin à ton effondrement et te voir partir, la tête basse, alourdie de remords. Alors j'ai reconduit Aurélie dans le jardin du couvent. Son beau-père est venu la chercher en voiture pour prendre le train, tandis que moi j'allais quérir ma valise. J'achetais l'équipage et les frusques d'un paysan, et je m'éloignais, sans autre but que de couvrir la retraite d'Aurélie. Raoul appuya sa tête sur l'épaule de Marescal et ferma les yeux. Inutile de te dire que tout ça m'a quelque peu fatigué, et qu'un petit somme me paraît de rigueur. Veille sur mes rêves, mon bon Rodolphe, et ne t'inquiète pas. Tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Chacun y occupe la place qu'il mérite et les gourdes servent d'oreiller aux malins de mon espèce. Il s'endormit. Le soir venait. De l'ombre tombait autour d'eux. Parfois, Raoul s'éveillait et prononçait quelques paroles sur les étoiles scintillantes ou sur la clarté bleue de la lune. Puis, de nouveau, c'était le sommeil. Vers minuit, il eut faim. Sa valise contenait des aliments. Il en offrit à Marescal et lui ôta son baillon. « Mange, mon cher ami, » dit-il en lui mettant du fromage dans la bouche. Mais Marescal entra aussitôt en fureur et recracha le fromage en baragouinant. « Imbécile, crétin, c'est toi la gourde, sais-tu ce que tu as fait ?»« Parbleu, j'ai sauvé Aurélie. Son beau-père la ramène à Paris et moi je l'ai rejoint. Son beau-père, son beau-père !» s'écria Marescal. « Tu ne sais donc pas, quoi ?»« Mais il l'aime, son beau-père. » Raoul le saisit à la gorge hors de lui. « Imbécile, crétin, tu ne pouvais pas le dire au lieu d'écouter mes discours stupides. Il l'aime? Ah, le misérable! Mais tout le monde l'aime donc, cette gosse-là, tane brute! Vous ne vous êtes donc jamais regardé dans une glace? Toi, surtout, avec ta binette à la pommade! » Il se pencha et dit « Écoute-moi, Marescal. J'arracherai la petite à son beau-père, mais laisse-la tranquille, ne t'occupe plus de nous. » Pas possible, fit le commissaire sourdement. Pourquoi ?
Elle a tué. De sorte que ton plan, la livrer à la justice, et j'y parviendrai, car je la hais.
Il dit cela d'un ton de rancune farouche qui fit comprendre à Raoul que désormais la haine chez Marescal l'emporterait sur l'amour.
Tant pis pour toi, Rodolphe. J'allais te proposer de l'avancement, quelque chose comme une place de préfet de police. Tu aimes mieux la bataille, à ton aise. Commence par une nuit à la Belle Étoile. Rien de meilleur pour la santé. Quant à moi, je file à cheval jusqu'à Lourdes, sur la grande ligne.
20 kilomètres. 4 heures de petit trot pour ma cavale. Et ce soir, je suis à Paris où je commence par mettre Aurélie en sûreté. Adieu, Rodolphe. Il l'assujettit comme il put sa valise, enfourcha sa cavale, et sans étrier, sans selle, sifflotant un air de chasse, il s'enfonça dans la nuit. Le soir, à Paris, une vieille dame qu'il appelait Victoire et qui avait été sa nourrice attendait en automobile devant le petit hôtel particulier de la rue de Courcelles où demeurait Bréjac. Raoul était au volant. Aurélie ne vint pas. Dès l'aurore, il reprit sa faction. Dans la rue, il nota un chiffonnier qui s'en allait, après avoir picoré du bout de son crochet au creux des boîtes à ordures. Et tout de suite, avec le sens très spécial qui lui faisait reconnaître les individus à leur marche plus encore qu'à tout autre signe, il retrouva sous les haillons et sous la casquette sordide, et bien qu'il l'eût à peine vu dans le jardin Faradoni et sur la route de Nice, l'assassin Jodot.
« Bigre, se dit Raoul. À l'œuvre déjà, celui-là. »
Vers 8 heures, une femme de chambre sortit de l'hôtel et courut à la pharmacie voisine. Un billet de banque à la main, il l'aborda, et il sut qu'Aurélie, emmenée la veille par Bréjac, était couchée avec une sorte de fièvre et le délire. Vers midi, Marescal rôdait autour de la maison.